on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Bonjour, je suis très heureux de présenter mes vœux aujourd'hui en ce début d'année avec cette émission qui est une rencontre avec Émilie Loiseau. La semaine dernière, vous avez entendu une émission qui a été répétée d'une semaine à l'autre avec l'anglais. Bon, vous l'avez entendu deux semaines de suite, ce qui n'est pas très grave. Il y avait un caprice informatique qui a fait que nous n'avons pas pu diffuser l'interview que j'avais faite de Blaubird, mais ça n'est que partie remise. Mais aujourd'hui, je tenais particulièrement à commencer l'année avec cette interview d'Émilie Loiseau. D'abord parce qu'elle est lourdement porteuse de sens pour commencer cette année 2023 du bon pied, je devrais dire. Et aussi parce que Émilie Loiseau, comme vous allez le comprendre dans l'interview, est la marraine de l'espace développement durable des Biennales internationales du spectacle qui commence mercredi prochain. Et donc ce sera très important d'aller écouter et Émilie Loiseau et tous les gens qui ont des choses à dire sur les problématiques de transition qui sont les questions de l'heure. Et il y a des gens qui ont des choses à y dire dans ces Biennales internationales du spectacle et en particulier dans cet espace développement durable. Revenons à Émilie Loiseau. Nous avons fait l'interview par téléphone et vous le constaterez facilement parce que le son est assez pitoyable, mais je pense qu'on comprend tout et c'est l'essentiel. Et je vous propose maintenant de découvrir ce moment partagé au bout du fil.
Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour.
J'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer de visu à Nantes lors d'un passage récent, mais vous revenez à Nantes dans quelques jours pour les BIS, qui sont ces biennales de la musique et du spectacle vivant. Et au cours de ces BIS, vous allez être la marraine d'un espace spécifique qui s'appelle l'espace développement durable. C'est bien ça ?
Exactement. On me fait cet honneur.
Alors, mais si on vous fait cet honneur, c'est probablement parce que vous l'avez mérité et peut-être aussi parce que vous avez, depuis quelque temps, explicité un certain engagement du côté de ce qu'on appelle communément développement durable. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de définir aujourd'hui en particulier. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Les terminologies, c'est toujours compliqué. Les cases, les étiquettes, c'est toujours compliqué. Mais il s'agit effectivement d'essayer de chacun où on est dans notre métier et dans notre quotidien de travailler à des choses qui puissent être durables et résilientes et nous permettre de survivre sur cette planète et de continuer de faire ce qu'on aime et de prendre soin du seul endroit où on peut vivre. Voilà. Donc c'est de faire de ce métier quelque chose qui aille dans ce sens-là.
Effectivement, alors peut-être que durable que vous avez repris comme terme va bien, développement on oublie un peu, parce que fort heureusement depuis que ce terme est arrivé il y a déjà des années, on a compris qu'on pouvait aussi ralentir, qu'on pouvait décroître, qu'on pouvait vivre autrement, et ce qui paraissait hérétique il y a même pour les économistes il y a pas si longtemps est en train de devenir quelque chose de plus présentable. Alors, je vais évoquer ce qui va se passer sur cet espace développement durable, puisqu'il va y avoir des conférences, des ateliers. Je prends quelques titres au hasard. Ralentir, réduire les échelles, renoncer. Trois R qui seront accompagnés par le Shift Project. Il y a aussi la question des clauses d'exclusivité qui, évidemment, induisent des déplacements importants du public. D'ailleurs, il y aura aussi un atelier autour des déplacements des publics qui ont un impact carbone relativement important. Il y aura des questions autour de la réduction de l'usage de l'avion, de la réduction de l'usage des plastiques. Bon, ça, c'est devenu une tarte à la crème. Du circuit court artistique aussi, ça c'est quelque chose dont on peut parler. Et puis il y aura aussi Reine Pratt qui sera là et qui a écrit « Exploser le plafond, un précis de féminisme à l'usage du monde de la culture ». Est-ce que vous avez lu ce petit opuscule ?
Absolument pas, mais j'aimerais beaucoup le lire, justement. Mmh. Je me suis accordé comme mission de lire ça avant ma venue.
Très bien. Bon, il vous reste quelques jours. Donc, voilà. Profitez-en. Parce qu'effectivement, Reine Pratt, qui a travaillé au ministère de la Culture, rue dans les brancards, et dit fortement des choses. Et on pourrait faire le lien, j'imagine. Alors, je vais pas me lancer maintenant, mais entre les problématiques de l'environnement, du rapport au vivant et celle de la place des femmes et de l'écoféminisme, par exemple. Et je ne suis pas nécessairement un adepte de Sandrine Rousseau, mais j'aime beaucoup quand même ce qu'elle a à en dire. On va arriver tout de suite au disque que vous avez commis il y a maintenant un an et demi à peu près, je crois, Icar.
C'est ça, il est sorti il y a un an et quelques mois, exactement.
Et ce disque s'intitule Icar. Qu'on peut, alors, vous avez joué sur les mots comme vous jouez sur les langues, puisque vous êtes, vous avez la binationalité franco-anglaise et du coup, le Icar peut devenir I care, ce qui est, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait avec ça.
I care, je prends soin, donc. Il y a une chanson qui est un peu la clé de voûte de l'album, mais qui est une chanson assez discrète sur ce disque, la plus acoustique, comme une respiration, comme un, ça pourrait presque être un titre caché, que j'ai voulu très baroque et très épuré, sur ce tableau de Bruegel qui s'appelle La Chute d'Icare, dans laquelle devant lequel je me suis arrêtée à Bruxelles, je sais pas, éblouie peut-être pas le terme, mais comme en méditation. Il est tellement beau, ce tableau, et c'est un paysage toscan, magnifique, solaire, paisible. Et un laboureur laboure son champ, regarde son travail, un autre regarde vers le ciel. Et puis d'un seul coup, on se pose la question, au bout d'un moment, après avoir été en arrêt quelques instants, quelques minutes, on se dit, mais en fait, ce tableau s'appelle La Chute d'Icare, où est-il ? Et il est dans un coin du tableau, en bas à droite, on voit un pied qui sort de l'eau, une plume qui vole. Il est en train de se noyer, mais tout le monde regarde ailleurs, et nous-mêmes y compris, en tant que spectateur et qu'admirateur de ce tableau. Et il y a tout un tas de d'analyses de ce tableau et de ce qui est de ces différents sens, mais de ces différentes traductions. Mais moi, j'y ai vu une métaphore parfaite de ce qu'on traverse aujourd'hui. On va dans le mur, mais on préfère regarder ailleurs ou se mettre la tête dans le sable parce que c'est trop difficile à entendre et qu'on préfère continuer comme si de rien n'était. Donc voilà. Mais ensuite, une fois que j'avais cette chanson, il s'agissait de trouver le nom du disque et je trouvais qu'Icare était. J'hésitais beaucoup parce que je trouvais que c'était soit grandiloquent, soit plus grand que moi, en tous les cas. Et puis, d'un seul coup, j'ai détaché une lettre et je me suis rendu compte qu'on pouvait dire « I care ». Et là, la face sombre de cette pièce avait une face solaire qui était la clé dans cette, effectivement, dans cette fable assez triste et fataliste, ce serait peut-être de prendre soin. Et peut-être que c'est la solution à peut-être que c'est une solution à chaque étape, à chaque endroit, à chaque étage de la vie et de notre société, en fait. Si on prend cette phrase comme précepte, peut-être que beaucoup de choses sont résolues.
On est là avec quelque chose qui me fait penser au travail qu'a fait Victoire Tuaillon ces derniers temps avec son podcast Le cœur sur la table, une espèce de retour de l'idée d'amour et d'amour qui sert à quelque chose. Je trouve ça plutôt intéressant, à vrai dire. Peut-être est-ce qu'on peut tout de suite, alors il faut que j'installe un petit peu de musique à l'intérieur de notre entretien, écouter la chanson Icare, et puis on reprend notre entretien après, si vous voulez bien.
Oui.
Dessus la mer, Icare est tombé comme un éclair, juste un éclat sur l'eau, un détail dans le tableau. Le soleil brillait dessus la terre, chacun occupait à son affaire. Seul frissonnait l'air et une plume dans l'eau. Icare volait, se devenir oiseau. Icare n'oublie pas le poids de tes os. On dira de lui qu'il était fier, qu'il volait trop près de la lumière. On dira de lui qu'il était bien courageux. Et moi j'ai pleuré dessus la mer. Icare, nous sommes bien tes juste un éclat sur l'eau, un détail dans le tableau. Icare volait, se devenir oiseau. Icare n'oublie pas le poids de tes os. Bien courageux, le soleil brille dessus la terre, chacun occupé à son affaire, seul frissonne l'air et une plume dans l'eau.
Voilà, donc après cette chanson Icare, les choses sont posées. C'est drôle parce que c'est pas si drôle que ça d'ailleurs, mais c'est Jacques Chirac qui disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Finalement, c'est la même chose avec cette contemplation du tableau de Bruegel et cette infime place laissée au drame vécu par Icare et que vous avez retrouvé. J'avais envie de parler d'une autre chanson qui m'a interpellé et qui m'a interpellé à divers titres. C'est une chanson en anglais qui s'intitule Silence. Mm. Et vous avez mis sur le livret du disque une petite dédicace à Bernie Krause et ses paysages sonores. Alors, par curiosité, j'ai fait une recherche, mais qui donc est Bernie Krause? J'ai trouvé en particulier une vidéo incroyable où Michael Tilson Thomas, qui est un chef d'orchestre réputé, qui a dirigé le London Symphony pendant longtemps, qui avait enregistré des disques avec John McLaughlin à l'époque, et le London Symphony, enfin, qui a fait des projets très divers, parle un peu de Bernie Krause, et après on voit Bernie Krause avec George Martin, excusez-moi du peu, donc cette personnalité qui a fait les Beatles, en train de converser sur les prises de son dans la nature. Et je me suis dit, c'est extraordinaire de connaître ça, de découvrir ça. D'ailleurs, j'incite évidemment les auditeuristes de l'émission à aller à la découverte du travail de Bernie Krause, parce que c'est fabuleux. Et qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous commenteriez cela, et en particulier en faisant peut-être le lien à propos de Silence avec cet ouvrage de Rachel Carson qui s'intitule Printemps silencieux?
En fait, c'est exactement ça, puisque Bernie Krause a participé à l'élaboration de cette grande exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait Le Grand Orchestre des Animaux. Où il a du coup avec tout un tas d'autres artistes d'art contemporain et différents artistes et scientifiques travaillé autour du son de la nature et de la musique et de la disparition. Il a posé des micros aux mêmes endroits à plusieurs années d'intervalle Et ensuite, moi, j'ai malheureusement manqué cette exposition, mais je me suis acheté le livre. Et ensuite, il a fait cette installation où, en fait, on vit la disparition sur plusieurs années. C'est-à-dire que la bande devient silencieuse. Et ça m'a bouleversée de me projeter dans cette exposition que je n'ai pas pu vivre de l'intérieur, du coup, mais que j'ai ressenti très fort par la manière dont il le décrit. Et c'est ce qui m'a fait écrire Silent. Et par ailleurs, je vais terminer là-dessus, l'institutrice de mon fils en cours élémentaire a fait remarquer, il est dans une école bilingue, aux enfants, un jour où j'étais là pour assister à un atelier à la classe, que l'anagramme de silent, c'est listen, écoute. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et il y a d'ailleurs un instrumental qui s'appelle listen en hommage à ce parallèle que cette jeune fille m'a fait découvrir, cette jeune femme. Et voilà. Et c'est, pour moi, c'est ce chemin, en fait, au travers du travail de Bernie Krause qui m'a fait écrire cette chanson.
D'accord. Je faisais référence à Printemps silencieux parce que Printemps silencieux, c'est tout de même un ouvrage qui a été à l'origine quasiment de pas mal de mouvements écologistes par la suite. Rachel Carson étant probablement la première lanceuse d'alerte reconnue comme telle. Et elle avait, elle, de son côté, et ça c'est peut-être le volet positif, obtenu la fin du DDT, enfin de ces pesticides immondes.
Oui.
Et donc voilà, pour moi, le travail de Bernie Krause est très intéressant parce qu'il illustre bien ce qui pourrait rester sinon quelque chose d'un peu mental. Enfin,
très concret.
Voilà.
On le vit de manière très concrète et par son oui. Et c'est vrai que c'est très parlant pour un musicien de vivre ça au travers de l'écoute.
Il y a des compositeurs qui ont travaillé, des compositeurs de musique concrète qui ont travaillé en agençant comme ça les bruits de ce qu'on appelle communément la nature. Et ce que Baptiste Morisot appelle le vivant, ce qui me plaît un peu plus.
Oui, moi aussi.
On va écouter justement cette chanson Silent.
Bla, 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 vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Symphony.
Voilà, c'était Silent. Après Silent, j'ai envie peut-être de continuer à écouter ce disque avec une autre chanson qui m'a frappé, qui m'a touché, c'est Ossétie Sakhovin. Donc, qui est un hommage, semble-t-il. Alors là aussi, il va falloir que peut-être vous apportiez plus d'explications aux Indiens Sioux du Dakota.
Oui. Alors, c'est le vrai nom de la tribu Sioux qui, j'ai su après l'avoir enregistré qu'en fait, ça se prononce Ossétie Sakhovin. Donc, c'est comme ça que je le prononce en concert, mais malheureusement, j'ai eu l'information trop tardivement. Oui, c'est le vrai nom. Ça veut dire le peuple des sept conseils du feu. Et c'est une chanson que j'ai écrite en hommage à la tribu des Sioux du Dakota qui ont lutté et luttent encore, parce que je crois que c'est désormais un peu gelé et en stand-by, mais contre ce pipeline gigantesque qui menaçait et qui a démarré maintenant le saccage de leur terre, de la mémoire de leurs ancêtres, de leurs forêts, de leurs rivières.
Pour transporter du gaz de schiste et du pétrole de schiste.
Exactement. Et j'ai beaucoup suivi au moment où j'écrivais ce disque. Moi, déjà, c'est un peuple qui me fascine depuis que je suis toute petite, pour des raisons, je sais pas comment dire, mais complètement inconsciente et animale. J'étais très attirée par eux. Et puis j'ai plus lu sur leur pensée, leur rapport à la nature, au vivant, au cosmos. D'autant plus en grandissant, je continue à être très attachée. Et puis j'ai découvert leur bataille, cette lutte, leur grand désespoir et en même temps leur grande sagesse et le courage qu'ils ont eu. Et ils ont eu quelques victoires dans cette bataille, mais pas que. Et donc c'est une chanson qui était plutôt un jour de défaite quand je l'ai écrite. Voilà, c'est un hommage à leur courage et à leur justesse.
Et qui représente quelque part aussi toutes les autres luttes qui peuvent avoir lieu sur cette planète ou à différents endroits, que ce soit pour essayer de préserver les forêts primaires de Pologne ou pour essayer de préserver les forêts primaires à l'autre bout de la planète. Et en fait, ils sont porte-étendard, mais enfin en Amazonie aussi, on lutte pour essayer de sauvegarder contre la folie de nos gouvernants effrayants.
Certains meurent d'ailleurs. Hein. Il y a des gardiens de la forêt qui se font assassiner. Mmh. Bien sûr.
Voilà. Alors, on va faire se succéder les titres de l'album. J'espère que vous m'en voudrez pas. mais j'ai envie qu'on écoute aussi cette chanson-là parce que elle a beaucoup de sens. Ossétie dans Sakhovin.
Voilà. Ouais.
On l'écoute.
Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Donc Ojeti Sakowin, c'est une des chansons de cet album. Je reviens à votre marrainage de l'espace développement durable des BIS dans quelques jours. Il est question que vous y fassiez une performance, ce qui sous-entend que vous allez peut-être chanter quelques chansons. C'est, est-ce que je me trompe pas?
Oui, je pense que c'est
à peu près ça qui se
prépare. Je ne fais pas un one man, non. A priori, je vais faire ce que je sais faire le mieux.
D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut savoir quel sera le programme de cette intervention courte?
À vrai dire, pour l'instant, je ne le sais pas tout à fait. Je vais le vivre sur le moment. Mais je vais chanter mes chansons, certaines de mes chansons, et je serai seule au piano. Et voilà, ça va être fort pour moi de les chanter seule, parce que c'est quelque chose que je fais rarement, même quasi jamais sur ce disque, et puis de le faire dans ce contexte où cela a vraiment d'autant plus de sens.
Bien sûr. Dans tous les cas, effectivement, votre répertoire se trouve éclairé d'autant plus par cette implication dans ce moment et dans ces lieux-là, j'ai l'impression. J'ai envie qu'on continue à explorer l'album. Alors, évidemment, on pourrait parler un peu plus de ce qui va se passer au BIS, mais je pense qu'il faut que chacun et chacune prenne le temps de regarder le programme. Il y a beaucoup de propositions qui effectivement concernent une réflexion approfondie sur la façon dont les uns et les autres nous faisons notre métier. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard, parce que j'imagine que vous vous êtes posé des questions pendant vos tournées, sur la façon dont vous fonctionnez aussi, sur justement votre bilan carbone en quelque sorte et tout le reste. Mais peut-être avant ça, je vais vous proposer d'évoquer un autre morceau, une autre chanson de ce disque, qui est peut-être une chanson, je ne sais pas comment la définir, le délice à pleurer. Dans cette chanson, il y a de l'auto-harpe, qui est un instrument que je connais bien et que j'apprécie. J'ai un partenaire de musique qui en joue régulièrement. Et il y a surtout un texte, dans un premier temps, on a l'impression que c'est une détente. En même temps, il y a quelque chose de la difficulté d'être consolé. Et en la réécoutant, je pensais à ce petit livre de Stig Dagerman. Je ne sais pas si vous connaissez ce tout petit opuscule de ce journaliste suédois. Ça s'intitule « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ».
Eh bien, figurez-vous que je ne l'ai pas lu, mais que j'ai lu alors je ne saurais plus maintenant parce que c'était au moment de l'écriture, mais tout un article sur des scientifiques suédois qui parlent également de ce livre et de précisément de ce besoin de consolation. Et c'est ce qui a ça a fait partie des jalons de l'écriture de ce disque. Je suis pas sûre que ce soit de cette chanson en particulier, je me souviens plus maintenant. Vous savez, au bout d'un moment, tout devient un peu plus brumeux sur les différentes étapes d'écriture, mais ça a fait partie, en effet, des jalons de mes lectures.
Bon, malheureusement, Stieg Dagerman a terminé sa vie par un suicide, et donc à une époque très lointaine, puisqu'en fait, il avait fait un film où il marchait dans les ruines de l'Allemagne de 1945, et où il a capté en fait des images terribles de ces destructions dont on connaît au quotidien la puissance aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Syrie et avec ce qui se passe en Ukraine. Et c'est évidemment quelque chose de terrible et que lui semble ne pas avoir réussi à supporter. Mais vous avez finalement une réponse un peu avec ce délice à pleurer qui est presque un oxymore. Enfin, est-ce qu'on peut trouver un délice à pleurer?
Cette chanson, ça fait partie des chansons où on n'a pas forcément envie de mettre des tonnes d'explications parce qu'on a l'impression qu'on va la vider de son sens. Elle a des facettes multiples pour moi. Elle m'est venue comme ça. Je pense de plusieurs choses. J'ai une histoire d'enfance qui est que j'avais à des moments besoin très fort de pleurer et il n'y avait aucune raison à cela et donc il fallait que j'en trouve une parce que sinon ça me semblait pas justifiable et donc je me mettais le petit cheval blanc de Brassens et c'était radical et j'avais le droit de pleurer donc c'était un délice en effet, c'est une forme de délice, c'était quelque chose qui se j'assouvissais quelque chose à ce moment-là et je pense que du coup ce terme du délice à pleurer vient vraiment à la source, elle est là. Ensuite, il y avait aussi une projection. C'était une projection dans un lendemain lointain, ou on ne sait pas à quelle mesure il serait vraiment très lointain, de désastre, de murs qu'on se serait pris et comment on est en tant qu'humain. Puisque mon geste dans ce disque était de prendre le pouls de mon intériorité, de mon âme, de mon cœur face au chaos du monde et comment il est impacté, comment je me sens impactée à l'intérieur, comment je ne peux pas être étanche à ça et comment personne ne peut l'être, de faire le pari qu'on est tous impactés et qu'on répond à cela d'une manière ou d'une autre, soit par le déni, soit par la colère, soit par le repli sur soi, soit par autre chose de plus positif et de l'engagement. Ou l'ouverture à l'autre, mais en tous les cas il y a un impact et donc j'étais en train d'aller chercher ce pouls qui est comme une projection de qu'est-ce qu'on est quand il ne nous reste plus rien et en vrai et quand tout est déserté par un désastre, en vrai ce qu'il nous reste c'est l'amour de l'autre, c'est le corps de l'autre, c'est ce qui nous lie à lui et c'est ce qui fait que on décide d'être encore en vie. Et voilà, donc c'est une chanson d'amour et c'est une chanson d'amour face à quelque chose de très sombre mais qui s'évertue à maintenir la lumière, voilà. Mais je sais qu'il y a aussi mille autres, quand je la chante à chaque fois, il y a mille autres résonances en moi.
Oui, j'entends bien. On va l'écouter. Le délice à pleurer.
Soulager même mon corps contre ton corps.
bla 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 bla.
Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
Voilà, le délice à pleurer. En fait, en même temps que je vous écoutais en parler, je repensais à ces mots que j'ai entendus, alors je ne sais plus dans quelle bouche, qui disaient « je ne suis pas éco-anxieux, je suis éco-révolté ». Mmh. Et je me disais « bah oui, voilà une bonne option, en quelque sorte, vous parliez d'engagement et tout ça ». Éco-révolté, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où on n'a pas envie de tout ça. Vous l'avez illustré avec un single qui était paru il y a quelques années, « Viens avec moi, mon vieux pays ». Et voilà, il y avait une forme d'engagement aux côtés de Cyril Dion, si je me souviens bien.
Oui, Cyril a fait le clip de cette chanson et on a soutenu l'action de Fabrice Nicolino et de l'association Nous voulons des coquelicots voilà. Contre les pesticides de synthèse.
Oui, et on continue à les dénoncer, et pourtant ils reviennent ils sortent par la porte et ils rentrent par la fenêtre. On a un peu de mal à les tenir à l'écart.
Voilà, quand il y a tant d'argent en jeu, que voulez-vous ?
Oui, c'est semble-t-il ça, quand il y a tant d'argent en jeu, quand il y a cet appétit de pouvoir, peut-être cet appétit. Alors, je ne vais pas me lancer ici et maintenant sur l'histoire du patriarcat, mais ça mériterait probablement qu'on en parle aussi.
Bien sûr.
Cet entretien avance et avant que nous quittions, je voulais quand même qu'on parle un petit peu justement de la tournée et au-delà de la tournée aussi de l'aventure qui a été la réalisation de ce disque que vous êtes allé faire au Pays de Galles sous la houle de John Parish avec des musiciens que vous avez choisis qui sont vos compagnons de route et qui ont apporté beaucoup dans sa fabrication. Alors comment on met tout ça en œuvre? Alors je sais que Sophie Ledière en particulier a dû contribuer, vous aviez fait une petite interview vidéo avec elle d'ailleurs, vous rendiez hommage à son travail. Parlez-nous un peu de cette famille.
Ça a été effectivement au démarrage une très très belle collaboration entre Sophie et moi qui j'ai décidé de prendre mon indépendance dans la production de ce disque. Je suis très joliment accompagnée par Piass en distribution, par le label Piass, mais je voulais garder la main sur l'ensemble, sur le reste. Et pour ça, j'avais besoin évidemment d'aide et je voulais surtout faire les choses de manière juste, éthique et responsable à la fois vis-à-vis de mon environnement professionnel, de l'environnement tout court et de ma propre économie. Enfin voilà, trouver un équilibre. C'est ça mon but, de trouver un équilibre qui soit juste. Et donc ça a démarré ainsi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y avait un geste d'essayer de jeter un regard sur le monde en passant par soi, c'est-à-dire comprendre ce que ces fracas font en nous et essayer de mettre nos âmes en résonance, parce que je suis convaincue qu'on est tous, personne n'est étanche à cela, et qu'il y a un endroit où cette résonance nous unit. J'avais voulu faire un disque forcément dans son propos, au vu du confinement en plus qui est apparu et de tout ce par quoi on est passé, allait être assez sombre dans ce propos. Mais je ne voulais pas qu'il le soit seulement. Vous parliez tout à l'heure de ne pas être éco-anxieux, mais éco-révolté. C'est exactement ça. Je crois beaucoup dans le fait d'être dans l'action. Et en fréquentant Cyril, en l'occurrence, qui est un ami cher, et les gens qui l'entourent, j'ai beaucoup, comment dire, nourri et compris l'importance de l'action pour ne pas effectivement sombrer dans... Donc quelque chose de trop désespéré. Et puis j'ai deux enfants, donc je me dois de leur donner de la lumière et des clés. Tout ça pour dire que je voulais que ce soit un disque solaire et vivant et debout, et qu'il y ait de la révolte dans la colère, qu'il y ait quelque chose de cathartique. Évidemment, la mélancolie est là, mais qu'elle ne soit pas toute seule. Et pour ça, j'ai fait appel effectivement à mon guitariste de toujours, qui ne m'appartient pas d'ailleurs, mais qui est celui avec qui je joue depuis plus de 10 ans et qui s'appelle Tchaba Palotai, qui m'a présenté Boris Boublil et qui lui-même m'a présenté Sacha Tourop. Et ces trois personnes ont pas mal travaillé avec John Parish. Moi, ça faisait un petit moment que je nourrissais l'envie de travailler avec John Parish, mais j'attendais le bon disque. Et j'ai pensé ce disque en pensant à lui, beaucoup, beaucoup. On a été en contact assez tôt, on a beaucoup échangé par mail, on écrivait les arrangements avec ces trois musiciens, tous les quatre, on les lui envoyait. Donc ça a été un travail très... très naturel et très amical et assez familial au final. Et puis finalement, on a pu se retrouver parce que tout se passait par mail pendant le confinement. Et c'était un moment suspendu, très doux et qu'on va renouveler puisque on va continuer ensemble pour la suite.
Ah, ah. Intéressant, important. Il faut dire aux auditeuristes de notre émission qui est John Parrish quand même.
Oui, John Parrish est ce musicien absolument merveilleux, producteur et musicien incroyable qui, entre autres, travaille comme producteur et musicien de PJ Harvey. Aussi Aldous Harding, qui a travaillé en France avec Dominica, Dionysos, Arnaud, en Belgique, et qui est un musicien extraordinaire, et d'une grande simplicité, humilité, intelligence. Voilà, c'est un sacré bonhomme.
Ouais, évidemment, semble-t-il une belle rencontre qui a induit, j'imagine que ça ne vient pas seulement de lui, mais, d'un point de vue esthétique, cet album a dû dérouter certaines des personnes qui vous écoutaient auparavant avec quelque chose de beaucoup plus, acoustique et un peu folk, en quelque sorte. Et qui là a des tensions. Alors, on n'a pas écouté par exemple We Can't Breathe, mais We Can't Breathe, c'est tendu, c'est puissant, c'est entremêlé d'éclairs. Enfin, on est dans quelque chose de beaucoup plus lourd, électrique, rock en quelque sorte, non?
Oui, enfin, alors, et d'autres, d'ailleurs, hein, c'est... à vrai dire, le chemin avait déjà démarré depuis un petit moment, et particulièrement avec Mona, qui s'était déjà électrifiée, mais vous avez raison, il y a eu quelque chose de plus assumé là, et complètement volontairement, et pour les raisons aussi, par cheminement musical, mais aussi par le propos dont je vous parlais tout à l'heure. Je voulais pas d'un disque de balade, je voulais quelque chose qui nous soulève. Ouais. Et c'était, j'avais envie d'explorer cette énergie-là, et d'exploiter aussi cette énergie-là pour le propos. Si vous voulez, bien sûr que lui a influencé. C'est pour ça que je suis allée le voir. En fait, voilà, c'est genre qui de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que oui, j'ai écrit en pensant que je voulais cette énergie-là et que j'allais la chercher avec lui. Je voulais un disque très live. Je voulais aussi dépasser un petit contrôle que je n'ai pas. Enfin, j'ai plutôt tendance à aimer les failles et les aspérités dans un disque et à ne pas vouloir faire de disque parfait et trop lisse parce que les disques trop lisses m'ennuient. Mais par contre, d'un point de vue vocal, j'ai cette petite coquetterie de chanteuse qu'on lâche jamais trop et qu'on veut contrôler la justesse et le timbre. Et je voulais lâcher ça pour être plus conteuse et pour trouver cette énergie animale qu'on a sur scène, la retrouver et ne pas être dans un contrôle de studio. Et on a donc placé le micro au piano, parce que je lui ai dit que je voulais faire ce travail-là. Donc il a placé un micro et on a tout joué en live avec la possibilité de refaire une voix si je le souhaitais, mais au final on l'a jamais fait. Toutes les voix qu'on a gardées sont les premières et ça, je pense donner cette chose très simple et sincère et directe de ce disque. Et cette énergie plus, je sais pas si rock est le terme, c'est juste, voilà, une énergie. Non. Moi aussi, j'utilise beaucoup, mais en fait, à vrai dire, j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes et je pense pas que ce soit du rock pour autant, mais effectivement, il y a quelque chose. We Can't Breathe est clairement un morceau, rock. On peut le dire, mais c'est surtout cathartique, c'est surtout une énergie, je sais pas trouver de mots pour tout ça. J'ai du mal à qualifier les les sons et les énergies. Je trouve ça très compliqué.
On va laisser à chacun la possibilité de mettre l'étiquette qu'il voudra bien, puisque finalement les étiquettes sont faites pour être mises et enlevées, pourquoi pas.
Oui, c'est en fait pour dire voilà, c'est sur le fil, pour utiliser des mots plus descriptifs. C'est une musique que ma musique est une musique qui est sur le fil, qu'il a toujours été, mais les plus là, de l'acoustique et de l'électrique. Et l'électrique, là, vient même, entre double guillemets, pervertir le son acoustique du piano, puisque je lui mets des pédales d'effet.
Ah ouais.
Donc je vais transformer, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de partir de son organique et d'aller les tordre. Et comme on tord le son d'une guitare quand on utilise une guitare électrique ou quand on lui met des pédales d'effet. Parce que j'essaye de travailler sur mon piano avec ça. Et donc, je suis toujours sur ce, je viens néanmoins du classique et effectivement, j'ai eu un répertoire assez folk acoustique et j'aime être sur ce fil-là, ce fil de la rugosité et de la douceur. Voilà. C'est plus long que de dire rock, mais.
Okay.
Moi quand je serai grand, je voudrais juste être vivant. Disons sur le pavé quelques milliers d'adolescents. Je n'ai même pas 20 ans et j'en aurai jamais 50. Et toi qui me regardes passer, tu penses encore aux 40. We can't breathe. We can't breathe. Bob said turtles, mom the fire. But mom said stay away from those who hold the flash walls. James said the darkest hour was just before the dawn. Well, the outside is pitch dark and they feel all alone. We can't breathe. We can't s'adressa un jour au duc d'Orléans, qui célébrait le roi juste avant le soulèvement. Il lui dit, Monseigneur, je vous adresse mes compliments pour cette fête napolitaine, mais nous dansons sur un volcan. We can't breathe.
Vous l'aurez compris, au montage, j'ai trouvé le temps d'insérer le morceau dont nous parlions, We Can't Breathe. Le voilà, donc vous l'avez entendu, et je reprends le fil, le dernier moment de cette interview avec Émilie Loiseau, que je vous recommande évidemment d'écouter plus amplement.
Bon, je vois le temps qui passe, on n'a pas vraiment eu le temps d'évoquer tout. Il y a aussi Eldorado qui a une référence directe à Laurent Godet.
Tout à fait.
On a eu déjà l'occasion, puisqu'on s'est entretenu ensemble il y a 6 ans de ça, dans les loges de la Bouche d'Air, et on avait eu l'occasion de parler longuement, c'était le moment de Mona, on avait parlé des réfugiés, de ces sujets-là, et puis... On avait aussi évoqué la famille, on avait évoqué des tas de choses. J'ai réécouté notre entretien parce que je me suis dit, tiens, de quoi on parlait à ce moment-là? On ne parlait pas exactement de la même chose qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je voudrais qu'on se quitte maintenant. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de passer la chanson en entier parce que le chrono tourne.
Oui.
Mais à la fin du poids de l'existence, vous terminez par ces mots que j'ai voulu, que je veux citer. Se pourrait-il qu'un jour la beauté nous ramène, nous emporte si haut qu'elle nous métamorphose? Et je trouve que c'est un joli pari, une jolie question à laquelle on a envie de répondre oui.
Je crois qu'il faut répondre oui à tout prix. Voilà.
D'accord. Eh bien, je vous quitte sur ces mots.
Merci
et
beaucoup.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de cette conversation avec moi.
Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassés. Quelle est donc cette douleur étrange? semble éternel. Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci du poids de l'existence. Nos corps alanguis, jouissant de la douceur d'une soirée d'or. Ajouter à nos êtres cette part du monde qui au fond nous avait échappé. Nous courions en larmes dans tous les sens à la recherche du poids de l'existence.
Ainsi s'achève ce moment partagé avec Émilie Loiseau. Je dois vous avouer que j'ai encore quelques étoiles dans les yeux et dans la tête après cette belle conversation et que je serai évidemment présent à l'espace développement durable quand elle s'y produira, puisqu'il est question qu'elle s'y produise. Alors je vous laisse découvrir le programme des Biennales internationales du spectacle et aller faire quelques découvertes. Il y a Émilie Loiseau, mais il y a bien d'autres personnes importantes et intéressantes à découvrir. La semaine prochaine, l'émission est enregistrée dès mercredi. Alors c'est un peu en off des biennales, justement. Toujours chez mon oncle, dès 19h30. Et j'aurai pour invité, une fois n'est pas coutume, un membre de ma famille. Ou plutôt une, puisqu'il s'agit de ma fille, Suzanne. Que certaines et certains d'entre vous doivent savoir que elle est elle-même chanteuse et elle poursuit une carrière et j'ai eu envie de faire un point avec elle avant qu'elle ne se lance dans une série de concerts qu'elle va donner dans le cadre du festival Chant Apart. Donc je vais la traiter comme n'importe quel artiste que j'invite, j'espère que je serai capable de le faire. Et on se retrouve donc chez mon oncle à 19h30 ce mercredi 11 janvier et si vous n'y êtes pas, ben vous entendrez tout cela dans les émissions qui suivront. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'abusez pas des galettes des rois. Pour ma part, je serai en répétition avec la production de Trafic d'air, puisque nous jouerons bientôt Alors on danse, un dance floor auquel je vous convie de participer, parce qu'on fera plus que écouter et chanter des chansons, on les dansera cette fois. Et ça se déroulera les 20 et 21 janvier prochains à 20h30 au 10, comme d'habitude, dans la jolie salle et l'agréable salle de cette maison de quartier qui est hébergée, qui nous héberge depuis maintenant 7 ou 8 ans. Allez, bon week-end.
Pends-toi ma langue, pends-toi ma langue et fais tout ça. Pends-toi ma langue.